Comme les heureux retraités, dès votre entrée dans la vie active, pensez à assurer vos vieux jours chez Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. De plus en plus d'agriculteurs français se convertissent au bio pour 2018. On a même assisté à un vrai record en la matière. Près de 14% avaient déjà franchi le pas entre 2016 et 2017. Et c'est donc près de 6,5% de la surface agricole cultivée en France qui aujourd'hui est réservée à ces cultures et à un élevage plus respectueux de l'environnement. Dans Priorité Santé, aujourd'hui, on va tenter de savoir si derrière ces produits bio, eh bien, les promesses sont tenues en matière de qualité et de santé. Car précisément, pour les consommateurs, c'est bien ce souci sanitaire qui constitue la préoccupation numéro un pour celles et pour ceux qui acceptent souvent de dépenser un peu plus pour manger des produits étiquetés plus naturels. Mais qu'en est-il en réalité? Proposer à sa table des fruits, des plats préparés à partir de produits labellisés sans pesticides ni OGM, est-ce que c'est l'assurance de limiter les risques, d'éviter certaines maladies? Alors que 15% des Français affirment consommer du bio quotidiennement, les recherches qui portent sur les effets de cette culture sur la santé reste assez rare, souvent controversée en raison des limites supposées de leur exigence scientifique. Et si l'augmentation de la surface cultivée bio est un phénomène planétaire, à laquelle on l'a vu, la France n'échappe pas, eh bien cette tendance générale ne doit pas masquer le fait que la France représente toujours le premier marché européen pour les pesticides. Consommer des produits bio, manger bio, est-ce que c'est meilleur pour la santé? Une question que l'on va poser à nos différents invités au moment où s'ouvre à Paris le salon de l'agriculture Porte de Versailles. Béatrice de Rénal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en nutrition, auteur de l'ouvrage Ouvrez l'œil avant d'ouvrir la bouche, conseil d'une nutritionniste en guerre contre le marketing alimentaire. C'est publié aux éditions Robert Laffont. On vous entend en direct de Montpellier dans le studio de France Bleu Héros. Docteur Laurent Chevalier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin au CHU de Montpellier, chef de l'unité de médecine environnementale à la clinique du parc de Castelnau-le-Lay, auteur du livre antitoxique publié au Livre de Poche. Élevage raisonné, soucieux de la santé. Illustration tout à l'heure, ce sera avec Mathieu Causse, agriculteur, président de l'association La Santé, la Terre et le Vivant à Merlet sur la commune de Bozoul en Aveyron. Et puis dynamique internationale, on va le voir. On va retrouver au Mali le docteur Oumar Diabaté, vétérinaire, fermier, agriculteur, fondateur du Centre sahélien de formation et de recherche en agroécologie. L'Institut de recherche pour le développement célèbre ses 75 ans. Nous allons l'évoquer, ce sera en fin d'émission. Anniversaire de l'IRD, ce sera avec son président, directeur général, Jean-Paul Moati.
Priorité santé sur RFI.
Alors cette question des bénéfices pour la santé de la consommation d'aliments issus de l'agriculture biologique, elle a été posée par une étude publiée en octobre dernier, largement relayée dans la presse, étude française qui tendait à démontrer que consommer régulièrement des aliments bio, cela diminuait de 25% le risque de développer un cancer. Étude sur un échantillon de 70 000 personnes, sur la base du volontariat. Docteur Laurent Chevalier, quel regard portez-vous sur cette étude, avec bien sûr deux aspects, les résultats, mais aussi la façon de procéder?
Voilà, alors les résultats sont intéressants dans la mesure où on montre, c'est une étude qui montre que finalement, même des expositions pour le tout un chacun peut avoir des conséquences pour la santé. Jusqu'à présent, on avait tendance à dire oui, mais vous savez, ce sont les agriculteurs qui sont exposés aux pesticides ou ceux qui fabriquent des pesticides qui vont avoir des problèmes pour la santé, mais pas le consommateur. Donc dans ce sens-là, c'est intéressant. Après, évidemment, au niveau des chiffres, eh bien on peut discuter puisque c'est sur la base du volontariat. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette étude, elle vient après tout un tas d'autres études. Aujourd'hui, eh bien, les lymphomes sont considérés comme des maladies professionnelles pour les agriculteurs. La maladie de Parkinson aussi, très probablement, enfin, on espère assez prochainement le myélome. On a des éléments très forts aussi, de nombreuses études qui montrent les risques de cancer de la prostate. Et puis, en plus, on a affiné les études, c'est-à-dire que on sait que Il y a un risque supérieur, par exemple, pour les maraîchers, pour ceux qui vont travailler sous serre, de cancer de la vessie. Pour l'arboriculture aussi, pour un risque d'augmentation de cancer de la prostate de 30%. Donc tout ça, c'est quand même très documenté. Donc je pense que on a beaucoup d'arguments extrêmement forts là-dessus. Et puis, je me souviens que j'avais signé aussi une tribune dans Le Monde, avec Claude Aubert, ingénieur agronome, où on expliquait que finalement, même si ça touche que les agriculteurs, est-ce que moralement, on a le droit de consommer des produits dont on sait que les producteurs risquent de tomber malades ou voire de mourir aussi à cause des pathologies qu'ils ont. Donc je pense que on a suffisamment d'arguments maintenant pour démontrer que le bio est quand même mieux pour la santé.
Docteur Laurent Chevalier, je vous interromps juste. Est-ce que le fait de s'interroger sur les conséquences sanitaires des produits chimiques, est-ce que c'est quelque chose d'assez récent ? Vous disiez beaucoup d'études. Moi, ce que j'ai lu, en fait, ça contredit un peu ce que vous dites en disant il y a finalement assez peu d'études. Est-ce qu'il y en a suffisamment en tout cas ?
Alors, je vais vous donner un exemple très précis. L'agence sanitaire britannique avait analysé 162 études qui montraient que, plusieurs études, dont 162, qui montraient que c'était plus le bio était plus bénéfique en termes de santé. Par derrière, il y a une publication de l'American Journal of Clinical Nutrition qui dit non, on peut pas retenir les 162, on va en retenir que 55, et donc on en retient que 55, donc c'est pas significatif. Donc on peut pas prouver que le bio est intéressant. Donc en fait, on a toujours été dans cette démarche qui était des démarches biaisées. Il faut voir qu'au niveau des médecins, il y a eu des pressions aussi assez fortes, subliminales, mais enfin qui étaient assez fortes, dans le genre le bio c'est pas prouvé, il faut être pour le progrès, il faut être pour la science, vous êtes des scientifiques. Ce sont les industriels qui finalement appliquent la science et le progrès, donc passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Donc grosso modo, on a été baigné dans cette culture, alors qu'on aurait dû dénoncer ça depuis fort longtemps, bien entendu, notamment au niveau des médecins. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ces pesticides, à l'inverse, sont extrêmement mal évalués. Mal évalué chez la femme enceinte, mal évalué au niveau de la population, on a des problèmes en permanence dans l'homologation, on a des produits qui sont dits CMR cancérogène, mutagène et reprotoxique, eh bien, il continue à se développer. On a 30% de plus de produits CMR. Alors, il y a différents degrés, hein. Les plus dangereux, bien entendu, sont interdits. Mais entre 2009 et 2014, donc on a une augmentation aussi de ces produits-là. Et on a des problèmes d'homologation au niveau européen. Donc, des produits pesticides insuffisamment évalués, des effets en même temps cocktail, des homologations douteuses, eh bien, je veux dire, consommer du bio, c'est quelque chose qui est beaucoup plus positif.
Docteur Laurent Chevalier, vous n'êtes pas tout seul pour cette émission, je suis navrée de vous le dire comme ça, mais on a Béatrice de Rénal qui à plusieurs reprises m'a fait signe en studio avec moi qu'elle souhaitait réagir, donc je vais lui donner tout de suite la parole parce que on parle du bio, mais aussi un petit peu de l'égalité, de la répartition de la parole. Béatrice de Rénal.
Alors, juste, en fait, c'est très intéressant, évidemment, tout ce détail. Il y a eu effectivement beaucoup de choses qui ont été, beaucoup de lobbies qui ont empêché certaines études de sortir. Notamment, vous savez que vous l'avez dit tout à l'heure, la France est très gourmande de pesticides et la première culture utilisatrice, c'est quand même le vin et les produits viticoles. Et là, on n'a jamais le droit de dire quoi que ce soit sur ce type de production et les produits qui en sont issus. Malheureusement, c'est quand même une industrie qui est très lourde et très polluante. Après, ça va être certains fruits. Mais est-ce qu'on oublie complètement que certaines cultures aujourd'hui, pourtant à l'échelle industrielle, se font absolument sans aucun pesticide ? Je pense au petit pois, par exemple. Le petit pois, c'est quand même le légume que tout le monde a dans son placard. Eh bien, aujourd'hui, les grands qui font les grosses sociétés qui cultivent ces petits pois, ils n'utilisent plus de pesticides. Alors, ils ne le disent pas. Peut-être qu'ils devraient le dire. Mais ça veut dire que, qu'on soit bio ou pas bio, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup baissé l'utilisation de pesticides, notamment pesticides et autres, notamment les plus toxiques. Donc, on se souvient du DDT qui a été largement utilisé aux Antilles françaises, le chlordécone pour la banane. Il est forcément encore un peu utilisé derrière les fagots comme ça, mais ça veut dire que globalement, on est quand même dans un cycle de vertueux où on essaye quand même d'éliminer pas mal de choses.
Sauf que pour ce dernier exemple, on voit que les effets délétères seront là pour de très, très longues années. C'est pas parce qu'on a cessé cesser de les utiliser,
c'est rémanent,
pour autant,
le DDT, comme la chlordécone, c'est rémanent. Donc, on sait qu'on va payer encore les pots cassés pendant des années. Donc là, aujourd'hui, je pense que l'on soit bio ou pas bio, on est quand même dans un cercle vertueux. On essaye de limiter l'utilisation de choses comme ça.
Par rapport au regard historique sur ces fameuses conséquences sanitaires, il y a quand même quelque chose qui est intervenu au cours des dernières années. On ne peut pas le passer sous silence, docteur Laurent Chevalier. C'est le fameux principe de précaution. Est-ce que ce principe de précaution, eh bien, il a des effets pour la santé? Est-ce qu'on peut l'évaluer?
Bien, c'est quelque chose qui est, je dirais, un petit peu indispensable, et pas que pour l'agriculture. Après, ce qu'il faut voir, il faut analyser aussi assez finement l'usage de ces pesticides, parce que si on a des fois l'impression qu'on en utilise moins, c'est parce qu'on utilise aussi des produits beaucoup plus agressifs. Et donc, il faut quand même tout relativiser par rapport à ça. Donc, on utilise malheureusement beaucoup trop de pesticides aujourd'hui, et ça a des conséquences, on le trouve au niveau des nappes phréatiques, etc. Et puis, un des gros avantages aussi du bio, c'est que on n'utilise pas de nanoparticules. Et donc, les nanoparticules, c'est quelque chose qui sont extrêmement fins, qui peuvent entraîner des effets sur la santé, qui peuvent être tout à fait problématiques. Là, on a un exemple concernant les additifs assez spectaculaires, qui est le dioxyde de titane. Donc, le dioxyde de titane, c'est un colorant blanc dont on a parlé il n'y a pas très longtemps.
Qui est notamment utilisé beaucoup en confiserie.
C'est utilisé en confiserie. Et donc, les députés ont voté contre la commercialisation, la poursuite de la commercialisation du dioxyde de titane. Ensuite, on a interrogé Bruno Le Maire. Et il a dit qu'effectivement, il était opposé.
Le ministre de l'économie.
Le ministre de l'économie. Et puis, quelques heures après, le cabinet a dit non, etc. Pourquoi? En fait, il faut arriver à voir les choses de façon assez subtile. Le dioxyde de titane existe sous deux formes. Sous la forme conventionnelle. Sur la forme conventionnelle, il n'est pas absorbé, donc il n'y a aucune raison de l'interdire. En revanche, sous sa forme nanoparticulaire, eh bien, il peut provoquer des lésions au niveau de l'intestin. Ces lésions, elles arrivent au bout du 100e jour expérimentalement quand on recherche cette toxicité aiguë. Or, la réglementation impose de faire des tests que sur 90 jours. Donc le fait, et comme la réglementation n'est pas respectée, puisque normalement il devrait étiqueter la présence ou non de nanoparticules, bien entendu, ça pose des problèmes de non-observance de la réglementation. Et ces nanoparticules, en fait, elles peuvent ensuite aller dans le corps, elles peuvent atteindre le fœtus, etc. Et on n'a pas de nanoparticules dans les produits bio. D'où l'intérêt supplémentaire de prendre des produits bio. Et le principe de précaution, c'est pas un principe d'inaction, c'est un principe de faire attention pour la santé. Alors après ça, l'évaluation... Bien sûr, dans un certain nombre de cas, elle peut être difficile, mais remettre en cause le principe de précaution, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux.
Alors justement, on parle des pesticides, là vous venez de parler des nanoparticules, débat qui porte également sur les organismes génétiquement modifiés. On parle également des perturbateurs endocriniens. Peut-être qu'avec tout ça, Béatrice de Rénal, les consommateurs ont un petit peu du mal à s'y retrouver, non?
Oui, bien sûr, et ils ont bien raison. En fait, l'important, je pense, au-delà, parce que les nanoparticules, effectivement, la première source de nanoparticules, c'est tous les plastiques qu'on a enfouis depuis 40 ans et qui deviennent des nanoparticules. Plastiques et qui sont très toxiques aussi.
Et qui sont aussi dans les emballages, on peut
Alors,
aussi les
en fait,
retrouver.
On peut les d'abord dans le sol et puis après dans tout ce qui va être issu de ça. En fait, il faut comprendre que l'effet cocktail aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très très difficile à évaluer scientifiquement puisque, par définition, quand j'ai un cocktail, j'ai plusieurs substances qui agissent à des doses qui sont très différentes. On peut avoir souvent les doses les plus toxiques sont les plus faibles. Donc, les toutes petites doses prises très régulièrement sont bien plus toxiques qu'une dose forte et aiguë. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les scientifiques sont quand même un petit peu dans le bleu. Il y a eu un colloque juste en fin d'année dernière de l'ANSES à propos de tous ces produits-là, notamment les perturbateurs endocriniens. Donc ce sont des molécules qui perturbent votre système hormonal à nous les humains et qui peuvent évidemment générer certains cancers. Donc c'est quand même assez gênant. Eh bien, les perturbateurs endocriniens, lorsqu'ils sont pris en effet cocktail, voient leurs effets décuplés, centuplés. Donc, en fait, il faut savoir que on devrait décider de donner bien plus de moyens pour la recherche scientifique afin d'en savoir un petit peu plus. Mais globalement, ça veut dire que, eh bien, si vous arrivez à écarter de votre assiette toutes les matières plastiques, toutes les matières synthétiques, tous les pesticides, mais aussi tous les produits d'hygiène de la maison, qu'on trouve.
Produits
les produits cosmétiques qui sont, enfin, ou des produits de personal care, comme on dit, soins corporels, qui contiennent aussi beaucoup de substances, eh bien là, vous allez évidemment beaucoup baisser votre risque de survenue de certaines pathologies.
Ce qui est assez étonnant quand on parle du bio, c'est qu'on perçoit bien sûr la dimension sanitaire, on perçoit aussi quasiment une dimension idéologique. Et justement, parmi les détracteurs du bio, docteur Laurent Chevalier, il y a ceux qui disent, eh bien, c'est pas parce qu'un produit est bio qu'il n'a pas été utilisé justement pour favoriser sa croissance, qu'on n'a pas employé des substances phytosanitaires. Et d'ailleurs, c'est vrai, hein, un pesticide sur 5 en volume est utilisé pour le bio, mais ça veut dire que ce ne sont pas n'importe quel pesticide.
Bien sûr, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on utilise aussi un certain nombre de pesticides. Puis les plantes ont des pesticides naturels aussi, mais c'est pas du tout aux mêmes doses et c'est pas du tout le même degré d'agressivité.
Mais sur cette langue de bois, ceux qui disent ah oui, mais vous dites que c'est bio, pourtant on utilise des produits. Comment est-ce qu'on répond à ça? Bien sûr, il y a une certaine dose de mauvaise foi, c'est évident, mais c'est quand même étonnant. Pourquoi continuer, en dehors bien sûr des intérêts économiques, vous parlez beaucoup des lobbies dans votre livre, pourquoi aller contre la santé publique? C'est peut-être une question naïve, mais elle me tracasse quand même.
C'est une question de productivité et de rentabilité, c'est évident, mais ça a toujours été. Je pense que ça a toujours existé. Et depuis la Révolution verte, on cherche le profit, au détriment de la santé du mangeur, voire même du producteur.
Oui, mais
Aujourd'hui, si vous voulez, le bio, moi je pense que le grand progrès, c'est que le bio donne une relation entre le producteur et le consommateur, une relation humaine. Et donc, ce n'est plus X qui fait mon blé, mais c'est un homme, une femme. Voilà. Donc, en fait, ce lien-là devient essentiel aujourd'hui, je pense. Évidemment, il y aura peut-être un petit peu de pesticides, un petit peu de produits liés au bio, mais c'est peu de choses par rapport à ce lien fondamental et aussi au fait que le grand gagnant du bio, ça reste quand même le sol, les sources d'eau et le bien-être animal. Donc, en fait, voilà, il faut avoir une vision bien globale.
Une vision globale. Justement, je vous écoute, docteur Laurent Chevalier.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Béatrice de Rénal, mais il faut voir quand même qu'on a une évolution aussi du bio. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a une tendance à l'industrialisation du bio. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est un sujet de débat dans le milieu bio. Mais disons qu'il y a deux aspects du bio actuellement. Je dirais qu'il y a le biotechnique, c'est-à-dire que on va avoir des produits bio qu'on va trouver en grande surface. Et là, on a un risque, qui est le risque de demander toujours moins cher et de se retrouver dans la même situation que les produits conventionnels où finalement les grandes surfaces, etc., voulaient toujours acheter moins cher et c'était toujours au mieux disant, et donc ça pose un problème. Et puis vous avez le bioéthique tel que vient de déclarer, enfin vient d'écrire Béatrice de Rénal, qui est tout à fait bien entendu, mais ce bioéthique, il faut pouvoir le défendre aujourd'hui et c'est un problème que l'on a. Donc, on a cette discussion entre le biotechnique industriel et le bioéthique. Bien entendu, il faut mieux du bioéthique, de proximité, etc. Mais, en même temps, moi, je suis pas opposé non plus, d'une certaine manière, au bioéthique. Et je pense que c'est aux agriculteurs, et puis Mathieu nous le dira peut-être tout à l'heure, à s'organiser pour qu'on soit pas dans cette spirale infernale de que ça soit telle grande surface qui achète moins cher, qui vend moins cher son bio, etc. Là, ça devient dangereux pour les agriculteurs eux-mêmes.
Alors justement, les agriculteurs, on va donner la parole à l'un d'entre eux, puisque tout de suite, on part pour l'Aveyron.
Priorité santé sur RFI.
Mathieu Cosse, bonjour.
Bonjour.
Agriculteur éleveur du côté de Rodez, on imagine bien les paysages autour de vous, ça doit être assez joli à voir. Président de l'association La Santé de la Terre et du Vivant. Mathieu Cosse, alors vous élevez des bovins, la race Aubrac, hein, pour décrire pour les auditeurs, ce sont ces magnifiques vaches et taureaux velus avec des magnifiques toisons et des grandes cornes. C'est plutôt une race rustique.
Tout à fait. C'est une race rustique forgée par les difficultés et la rudesse de notre climat, de notre territoire, oui.
Alors, des bovins que vous élevez en respectant le cahier des charges de l'agriculture biologique, qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leur alimentation est exclusivement bio et que l'on recherche, bien évidemment, une forme la plus totale d'autonomie. Alors, autonomie sur le plan alimentaire, évidemment, ça implique d'avoir des modes de production vérifiés, agréés par un cahier des charges, et soumis à un contrôle d'un organisme certificateur indépendant qui vient contrôler que l'on respecte bien ce cahier des charges.
Ça veut dire qu'est-ce que vous utilisez, ou vous, plutôt qu'est-ce que vous n'utilisez pas, vous, que les autres agriculteurs utilisent, les autres éleveurs, par exemple, donnent à leurs bêtes, Mathieu Cosse?
Alors en fait, l'agriculteur en agriculture biologique a pour obligation que l'intégralité, sauf dérogation exceptionnelle liée à des événements climatiques, que l'intégralité de l'alimentation de son cheptel soit bio. Donc dans ce but-là, il va chercher l'autonomie, cet agriculteur, ou le cas échéant, va avoir obligation d'acheter une alimentation elle-même agréée en bio. Donc il y a aussi des producteurs qui vendent des fourrages, des céréales en bio, et on a obligation, si on n'est pas autonome sur notre exploitation, d'acheter cette alimentation bio. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que l'agriculture biologique moderne implique pour les agriculteurs une remise en question en profondeur et une vue beaucoup plus globale de l'agriculture. L'agriculture moderne nous a trop privés, nous les agriculteurs, au travers de l'intensification de notre capacité à être maître de notre destin et à raisonner, à réfléchir notre exploitation de manière plus large.
Mathieu Cosse, est-ce que vous diriez que le bio rend sa fierté à l'agriculteur?
Exactement, j'allais y venir. Voilà, il y a une dimension... très importante pour l'agriculteur, c'est qu'on est fier à nouveau de faire ce métier, parce que l'agriculture biologique doit être l'agriculture montrant le chemin sur la préservation de l'environnement, et grâce à cela, grâce à cet environnement préservé, proposer aux consommateurs des produits de qualité pour leur santé, mais aussi de façon nutritionnelle, et à un prix tout à fait abordable. Il ne faut pas tomber dans le piège de dire que l'agriculture doit être réservée à une élite ayant des ressources importantes, financières, pardon.
Malgré tout, est-ce que cet argument du prix intervient? Autre question qui est liée directement, l'argument du rendement. Est-ce que élever bio, c'est moins rentable qu'élever conventionnel?
Non. Alors ça, c'est encore une idée reçue, relayée, entretenue, maintenue par tous les gens ayant... On parlait de lobby tout à l'heure, j'entendais dans l'émission, par tous ces lobbies qui ont la même mise sur l'agriculture, qui l'ont verrouillée de manière économique. Donc il existe des solutions. Notre association en est la preuve. On défend une agriculture de qualité dont la fertilisation passe par des micro-organismes qui maintient et améliore la vie des sols, et grâce à cela, on a des rendements équivalents par rapport au conventionnel, en s'évitant l'utilisation de pesticides, d'engrais de synthèse qui eux-mêmes peuvent être polluants en cas de forte pluie par lessivage et autres. Donc ça, c'est une idée reçue. Ce qu'il manque à l'agriculture française, c'est une volonté réelle de mettre des moyens de recherche pour moderniser cette agriculture bio, avec des nouvelles variétés, des nouvelles techniques, des nouveaux moyens, que vraiment il y a aussi une évolution de l'éducation. Les écoles d'agriculture ont leur rôle à jouer dans la formation de cette nouvelle génération d'agriculteurs qui prend conscience que le sol n'est pas qu'un support, mais c'est vraiment la base de l'agriculture, et qu'en ce sens, on doit le respecter au plus haut point.
Alors Mathieu Cosse, on perçoit votre préoccupation pour l'environnement, pour le lien social également. Pour ce qui est de la santé du consommateur, et d'ailleurs de votre propre santé également, est-ce que c'est quelque chose qui a pesé dans votre choix d'aller vers le bio ?
Ben tout à fait, parce que n'oublions pas tout de même que les premières victimes de l'utilisation de pesticides et de produits dangereux sont d'abord les agriculteurs, puisqu'ils ont la double peine, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent dans le cadre de leur travail, mais ils sont aussi consommateurs. Et donc, de fait, ils sont victimes de ces produits. Donc, bien évidemment, la préoccupation de la santé a pesé dans le choix de faire une agriculture bio.
Ouais. Mathieu Cosse, vous êtes dans un environnement, justement dans votre région. Je parlais tout à l'heure de cette dynamique du bio général dans l'agriculture française, hein, même si ça reste minoritaire, beaucoup de monde s'y met. Quel est le regard de vos confrères, des agriculteurs de votre région, de vos voisins, sur votre démarche?
Mais ça tend à évoluer. Les gens sont plus respectueux qu'ils ne l'étaient, et il y a aussi une prise de conscience générale de l'agriculture. les agriculteurs ont pris conscience que à continuer avec ces mêmes pratiques qu'on avait dans le mur et qu'il y avait une rénovation, voire une révolution en agriculture à faire. Et donc, de ce fait, on est plus dans le cadre de l'observation que du jugement. Les agriculteurs attendent que de nous de voir quelles techniques on met en œuvre, comment on s'en sort, quel rendement on a, comment on fait face aux aléas climatiques. Et en ce sens, il y a un peu plus de respect qu'il n'y avait avant, c'est sûr.
Merci beaucoup Mathieu Cosse, merci, très bonne journée à vous dans l'Aveyron, et on retrouve nos invités dans Priorité Santé. On continue de parler de l'impact du bio sur la santé avec Béatrice de Rénal, nutritionniste, toujours en duplex de Montpellier, le docteur Laurent Chevalier dans les studios de France Bleu Hérault. Docteur Chevalier, on l'a souligné tout à l'heure, hein, l'impact l'agriculture intensive sur la santé des agriculteurs, des paysans, insecticides, pesticides, fongicides, est-ce qu'il existe des études qui concernent justement les agriculteurs? Est-ce qu'il existe d'ailleurs en la matière des maladies professionnelles?
Oui, il existe un certain nombre de maladies professionnelles. Effectivement, le lymphome, le Parkinson, il y a d'autres maladies qui peuvent être favorisées par les pesticides, comme les problèmes de la fertilité, les leucémies, la maladie d'Alzheimer, mais il y a une des choses les plus choquantes, mais vraiment choquantes que l'on a, c'est l'impact des pesticides qui est bien documenté, puisqu'il a été documenté par l'INSERM, par des organismes d'État, chez la femme enceinte, chez l'agricultrice enceinte. On sait, par exemple, on est en train de se gausser avec le glyphosate, etc. Eh bien, on avait un rapport de l'INSERM qui montrait qu'il y avait un risque de mort fœtale qui était augmenté sur l'exposition au glyphosate. En tout cas, il y avait en tout cas de fortes suspicions, donc on n'attend pas d'avoir le niveau de preuve absolu avant d'agir. Et là, la protection des femmes agricultrices et des femmes qui travaillent dans des entreprises qui fabrique des pesticides est totalement insuffisante, alors qu'on a les éléments. Et là, je dirais qu'il y a une responsabilité quand même des pouvoirs publics qui est extrêmement forte. Et nous, médecins, on est quand même tout à fait atterrés par rapport à ça. Après, comme l'a dit Mathieu Cosse, on a aussi un respect de l'environnement, puisque finalement, tous ces pesticides, ils vont aller dans l'eau, et après ça, dans l'eau, on peut la consommer, ça peut aller dans les sols, etc. Ça va dans les sols, et donc ça pose tout un tas de problèmes. En plus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus vous utilisez des engrais de synthèse azotée, par exemple, plus vous allez avoir de ravageurs, et plus vous aurez besoin, puisqu'il y a de l'azote, plus vous aurez besoin, à ce moment-là, d'utiliser des pesticides.
Expliquez-nous, donc, c'est quoi les ravageurs?
Les ravageurs, eh bien, ça va être les pucerons, ça va être les insectes, ça va être aussi des micro-champignons, ça va être beaucoup...
Ça bouleverse l'écosystème.
Ça bouleverse aussi l'écosystème, mais vous en utilisez plus. Donc, je crois que, moi, ce qui est tout à fait choquant, c'est que le niveau de preuve est assez élevé, suffisamment élevé, pour prendre véritablement des mesures. Et on voit quand même une frilosité de la part des pouvoirs publics. Après, ce qui est important aussi, et là où ils ont raison, c'est que si par exemple on interdit le glyphosate en France, il faut qu'on interdise aussi l'importation de tous les produits qui ont été cultivés avec du glyphosate. Donc on aimerait bien que les pouvoirs publics mettent aussi un peu plus leur énergie là-dedans, puisque effectivement, pénaliser uniquement les agriculteurs français, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait regrettable. Après, il faut quand même bien comprendre aussi, c'est que le glyphosate, tout le monde peut s'en passer. Et Mathieu Cosse en est absolument l'exemple. C'est-à-dire que ceux qui sont en agriculture bio, eh bien, ils n'utilisent pas ce produit-là. Donc s'ils n'utilisent pas, ça veut dire qu'on peut s'en passer. Et en même temps, ils ont des rendements, ils ont une qualité pour eux, pour le consommateur, qui est beaucoup plus importante.
On va prendre tout de suite la question d'un auditeur.
RFI.
Et cet auditeur, il nous appelle du Burkina Faso, de Ouagadougou. C'est Peter. Bonjour Peter.
Bonjour Caroline.
On vous écoute Peter.
Concernant les produits bio,
oui.
Nous avons constaté que sur le marché, il y a assez de produits sur les étiquettes, on voit la mention bio. Ma question est la suivante. Je trouve, quand je vois ça, je me pose la question. Est-ce que c'est un moyen de commercialiser ces produits ou bien des produits réellement bio? Et l'autre question, c'est si c'est vraiment bio, quand je prends l'exemple des produits, des jus de fruits, comment ils arrivent à conserver ça pendant un bon moment sans un conservateur chimique?
Alors, deux questions, Peter, que vous posez. Comment s'assurer que c'est bien du bio? Est-ce que c'est pas simplement une petite technique marketing pour faire vendre? Première question que je vous adresse, Béatrice de Rénal.
Oui. Alors, effectivement, c'est une question qui revient très souvent puisqu'on se rend compte qu'il y a du bio très cher dans certains magasins, du bio pas cher dans certains autres. Et les consommateurs nous disent, mais enfin, ça veut dire que c'est juste un label qu'on achète? Bon. Alors, non, c'est pas un label qu'on achète. En tout cas, en Europe, on a cette feuille européenne verte qui est avec un cahier des charges et des contrôles très stricts. Donc là, vous êtes garanti d'avoir un produit issu de l'agriculture biologique. Souvent, en France, on a les deux labels, le label AB français et la feuille européenne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Français connaissent mieux le label AB que la feuille. Donc en fait, les fabricants souvent mettent les deux. Mais ça veut dire que vous l'achetiez cher ou pas cher, dès l'instant que vous avez ce label, ça veut dire que vous avez un produit conforme au cahier des charges bio. En revanche, lorsque vous achetez un produit hors Europe, j'ai eu le cas à traiter il n'y a pas très longtemps, par exemple des baies goji, où il y a un label bio dessus qui vient de très loin et qui est bourré de pesticides. Donc ça veut dire que le label bio, eh bien parfois, effectivement, il est mis là de façon marketing,
économique.
Il faut
voir en fonction des exigences sanitaires nationales.
Voilà, en fait, il faut essayer d'acheter des produits avec la feuille européenne ou le label AB, le cas échéant.
Mais là, en l'occurrence, Peter est à Ouagadougou, donc ça va être compliqué d'acheter du label européen.
Alors, sauf qu'il a certainement beaucoup d'importations européennes, mais aussi d'autres pays. Donc en fait, il faut être garanti. Il faut être sûr du label qu'on achète. Mais après, donc effectivement, il peut y avoir des labels de complaisance, mais en général quand même, même à l'étranger, les produits sont garantis. Il y a aujourd'hui, au niveau international, des conventions qui sont faites entre pays. Même si le cahier des charges n'est pas strictement le même, il est tout à fait comparable. Et quand vous avez le label bio nord-américain, canadien, enfin, vous avez quand même beaucoup de labels qui sont comparables.
Qui se retrouvent. Alors maintenant, sur le mode de conservation,
oui.
Tout simplement, Peter se demande, comment est-ce qu'on peut garder 3 mois un jus de fruit en dehors du réfrigérateur s'il n'y a pas de conservateur?
Parce qu'il est tout simplement stérilisé.
Voilà.
Donc en fait, dès que vous stérilisez quelque chose, que ce soit bio ou pas bio, eh bien vous conservez le jus. Maintenant, un jus d'orange par exemple, eh bien il va garder, malgré la stérilisation, il gardera sa vitamine C, mais évidemment il en aura moins qu'un jus frais, mais il en gardera tout de même significativement. C'est-à-dire que vous avez quand même un jus de fruit, un jus d'orange qui sera riche en vitamine C. Mais voilà, le truc est bien sûr. Après, si c'est un produit frais, je dis n'importe quoi, un produit traiteur, des carottes râpées, un taboulé, etc. Si le produit est bio, là, vous n'avez pas le droit de mettre des conservateurs. Et là, vous avez forcément une date limite de consommation qui est beaucoup plus courte qu'un produit conventionnel où il y aura des conservateurs dedans.
Voilà pour ces réponses, Peter, ces réponses. Et très bonne journée à vous à Ouagadougou, au Burkina. On a une autre question. Là, c'est une question Facebook d'Ernest qui est au Bénin, à Bomé-Calavi. Il nous demande, on parle de culture hors sol. Est-ce que la culture hors sol, est-ce que c'est bio? Est-ce que les produits sont de qualité? Là, c'est peut-être pas tout à fait la même chose.
Ça, c'est une question réglementaire, puisque le bio, vous devez avoir un lien avec le sol. Donc, par exemple, une culture hydroponique, donc c'est par essence une plante qu'on met sur l'eau, à flotter sur l'eau, elle n'a pas le droit à avoir le label bio, même si par ailleurs, la culture est très propre, enfin tout ce qu'on voudra. C'est juste une question réglementaire.
Donc si c'est hors sol, ça ne peut pas être bio.
Non,
c'est contradictoire.
Pas,
voilà une réponse très simple. Justement, tout à l'heure, on parlait de la toxicité pour les agriculteurs. On parlait aussi, bien sûr, du principe de précaution. Et docteur Laurent Chevalier, vous parliez justement des populations plus vulnérables. Vous avez parlé des femmes enceintes. On pense bien sûr aussi aux jeunes enfants, aux personnes qui sont en situation de santé un petit peu plus difficile. Est-ce qu'on pourrait dire finalement, docteur Chevalier, que pour ces personnes, il est encore plus recommandé de consommer du bio ?
Ah oui, si il y a un moment dans la vie où il faut consommer du bio, c'est bien la femme enceinte. Donc il peut y avoir un impact sur le fœtus, et notamment avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport aux nanoparticules dans les produits conventionnels qui vont traverser la barrière placentaire, donc il faut faire attention à ça. Après, il faut faire aussi attention à une chose, c'est que c'est pas parce qu'on consomme bio qu'on a un bon équilibre alimentaire. Et ça, on le voit de temps en temps. Et pour l'anecdote, l'autre jour, je vois un patient qui est diabétique, donc je lui dis de faire attention à pas consommer trop de confitures, mais d'en prendre de façon raisonnable. Il me dit, mais il y a pas de problème. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, c'est une confiture bio. Donc c'est tellement, il y a tellement l'image que c'est un produit santé, que finalement, il estimait qu'il pouvait comprendre de la confiture. Mais je lui dis, ça contient du sucre. Donc faites quand même attention.
Le sucre donc, bio, ça reste pas... du sucre, hein?
Oui. Le sucre bio, ça reste du sucre, donc il faut faire attention.
Et un vin
à ça.
Bio, après... ça reste du vin aussi.
Oui, avec beaucoup de conservateurs, avec beaucoup de produits chimiques dedans, malgré tout. Oui.
Un peu moins, mais que les conventionnels. Après, ce qu'il faut voir aussi, l'évolution actuelle, c'est qu'il y a une espèce de... Les industriels vont essayer de vendre, alors ils n'ont pas encore réussi, mais ils vont essayer de vendre des produits en disant, voilà, ils sont bio, ils sont formidables, etc. Et notamment, par exemple, pour la viande in vitro. Donc, actuellement, ils n'ont pas le droit. Mais l'argumentation de la viande in vitro, donc c'est une viande de synthèse, c'est qu'on utilise moins d'eau, pas de pesticides, donc c'est absolument formidable. Et donc, en fait, ils font des pressions au niveau européen pour essayer d'avoir ce fameux label bio, de même que pour tout un tas de cultures... qui vont être, par exemple, des containers, des fraises, tout un tas de choses comme ça. Donc, il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça, puisque même pour cette histoire de viande in vitro, on a parfois l'impression que les start-up américaines vont favoriser cette espèce d'extrémiste vegan pour ensuite introduire des produits en disant, regardez, nous, nous sommes respectueux de l'environnement, nous n'utilisons pas de pesticides, etc. Vous pouvez prendre nos produits industriels bio de synthèse.
Merci beaucoup, hein, Santé Agriculture, préoccupations qui ne sont pas limitées aux pays du Nord. On va le voir tout de suite avec un exemple au Mali.
RFI.
Où on vous retrouve, docteur Oumar Diabaté, bonjour.
Bonjour.
Beaucoup de casquettes, hein, vétérinaire, fermier, agriculteur, donc vous avez fondé le Centre sahélien de formation et de recherche en agroécologie. Depuis quand est-ce que vous êtes converti, docteur Oumar Diabaté, à cette agriculture biologique?
Bonjour à tous les auditeurs. Je me suis converti à ça psychologiquement depuis les années 92, après mes études. Et ensuite, j'ai commencé à le pratiquer en 2005, quand j'ai eu un lopin de terre. Donc, c'est là que j'ai commencé à pratiquer l'agriculture biologique.
Quel type de culture est-ce qu'on trouve dans votre exploitation, docteur Diabaté?
Bon, pratiquement, on a toutes les cultures, hein, parce que j'ai à peu près une vingtaine de variétés de légumes et ensuite une dizaine de variétés de fruits.
Et passer au bio, qu'est-ce que ça a changé dans votre ferme? Qu'est-ce que vous avez renoncé à faire, justement, à ajouter au sol, à pulvériser sur vos plantes?
Bon, le bio, déjà, j'étais un peu sensibilisé à ça, parce que, comme vous l'avez dit, j'ai fait mes études, et lors de mes études vétérinaires, j'étais chargé de faire l'inspection des légumes au marché. C'était à Moscou. Donc, il fallait quand même donner l'autorisation en faisant un broyage de chaque échantillon et voir le taux de nitrate et de nitrite et d'autres produits chimiques. Donc depuis là, j'étais un peu sensibilisé parce que je voyais des paysans qui n'avaient pas l'autorisation de vendre à cause de ça. Donc j'ai compris que est-ce qu'il fallait pas mieux de faire une culture où on pouvait quand même éviter tous ces produits chimiques. Et ensuite, maintenant, quand j'ai commencé à faire ici le bio, j'ai compris que c'est quelque chose qui est plus facile. C'est bien plus facile de faire le bio ici que de faire la chimie. Parce que ici, en Afrique, rien n'est garanti. Les engrais qui viennent, on ne sait pas d'où ils sortent. Les produits chimiques qui viennent, ceux qui sont jetés en Europe, c'est ce qu'on déverse en Afrique. Donc, et puis, on n'a pas les dosages et aucun service pour contrôler ce qu'on fait. Donc là, je me suis dit, là vraiment, même si je ne connaissais pas le bio, je n'allais pas faire quand même la chimie.
Forcément, quand on se lance en agriculture, on pense à la rentabilité, au rendement. Est-ce que finalement, ça vous coûte plus cher de faire du bio ou finalement, vous y trouvez aussi votre compte sur ce plan financier, docteur Diabaté?
Ben, moi, je pense que c'est, financièrement, ici, c'est plus rentable de faire le bio que de faire la chimie. Comme je vous ai dit, on a un problème d'accès aux produits chimiques ici, hein. Surtout les produits chimiques de
qualité.
De bonne qualité. Voilà. Et ensuite, ici, comme je vous ai dit, c'est pas la même chose qu'en Europe où il faut tout acheter. Et en Afrique, on peut aller ramasser de la paille là où on veut. On peut monter son compost. On peut planter. Il n'y a pas de législation qui nous interdit de faire nos semences. qui nous interdit de faire nos plantes fourragères, d'élever en même temps que l'agriculture, de faire l'agriculture. Donc, c'est le coût de revient du kilo de compost revient très très moins cher par rapport à l'engrais. Et en même temps, les biopesticides qu'on fait, on fait avec des plantes que nous-mêmes nous plantons dans le jardin. Et il suffit seulement de les cueillir, soit les feuilles, soit les graines, soit la racine, et puis vous faites votre biopesticide. Donc ça nous revient vraiment très très moins cher que dans l'agriculture chimique. C'est pourquoi, concernant la vente, les gens sont étonnés du fait qu'on vend au même prix que les autres sur le marché, et même parfois moins cher.
Merci beaucoup hein, et tous nos encouragements. Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites, docteur Oumar Diabaté, dans votre exploitation. Je rappelle que vous êtes le fondateur du Centre sahélien de formation et de recherche en agroécologie.
RFI à Bamako, 98.5 FM.
On arrive déjà à la conclusion de notre émission avec nos invités, docteur Béatrice de Rénal, docteur Laurent Chevalier. Ce sera d'ailleurs le mot de la fin. Question qui se pose, hein. On a parlé santé des consommateurs, des agriculteurs. Il y a aussi derrière toutes les questions éthiques. Est-ce qu'aujourd'hui les mentalités changent? Les mentalités changent d'ailleurs jusqu'aux industriels pour un petit peu avoir davantage de préoccupations du bien-être public, docteur Béatrice de Rénal?
Oui, certainement. Il y a une vraie... D'abord, je pense que le moteur, c'est la demande du consommateur qui veut, pour la première fois dans l'histoire de la France, les Français donnent priorité à la nutrition. Et alors, vous comprenez mon étonnement, puisque ça fait quand même un petit moment que je travaille dans la nutrition, et ça fait 3-4 ans que les Français ont décidé de donner une priorité à la nutrition.
Il y a vraiment eu un changement.
Oui, il y a un vrai changement. Donc aujourd'hui, la nutrition, bien sûr, le goût, le prix, la praticité sont essentiels, mais la nutrition est très importante. Et aujourd'hui, de plus en plus, on voit naître sur les marchés une promesse sans résidus de pesticides. Donc en fait, là, on a des marques qui osent vraiment s'engager avec une promesse sans résidus de pesticides. Ils ont bien compris que les Français n'aiment pas la chimie, n'aiment pas les additifs, n'aiment pas les contaminants. Donc on est vraiment sur la bonne voie.
Docteur Laurent Chevalier, on entendait votre discours militant. Il nous reste très peu de temps et on le comprend bien, ce discours militant. Est-ce que vous avez, vous aussi, l'impression que les mentalités changent ?
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Béatrice de Rénal. Oui, effectivement. Après ça, je pense que, de toute façon, l'alimentation, ça a quand même malgré tout été une préoccupation au cours de l'histoire. Hippocrate, déjà, disait que ton aliment soit ton premier médicament. Ensuite, toute l'histoire sur on mangeait selon ses humeurs, etc. Mais disons qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience par rapport à des produits chimiques qui n'ont pas été suffisamment bien étudiés, en sachant que malgré tout, effectivement, il y a aussi des gens qui travaillent bien en conventionnel et la fertilisation des sols est quelque chose de tout à fait essentiel pour avoir aussi des bons produits, etc. Donc il y a toute une chaîne vertueuse qui se développe et c'est tout à fait encourageant.
Merci beaucoup. On va rappeler le titre de vos ouvrages respectifs, docteur Béatrice de Rénal. Ouvrez l'œil avant d'ouvrir la bouche chez Robert Laffont. Et vous, docteur Laurent Chevalier, livre anti-toxique au livre de poche. Merci à tous les deux. L'Institut de recherche pour le développement célèbre ses 75 ans, l'IRD dont les chercheurs interviennent régulièrement hein, dans le cadre de Priorité Santé sur RFI pour nous présenter les recherches en cours sur le virus d'Ebola, sur la fièvre de Lassa, l'envenimation ou encore les maladies négligées. Alors c'est une occasion aujourd'hui pour nous de s'arrêter justement sur cet établissement public à caractère scientifique avec vous, Jean-Paul Moiti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président directeur général de l'IRD. Alors avant d'évoquer, hein, Jean-Paul Moiti, les événements qui vont marquer cet anniversaire, si vous le voulez bien, on va essayer de rendre compte des activités de votre institut. Est-ce qu'on peut donner des exemples de projets de recherche qui sont conduits actuellement ?
Pour donner un exemple extrêmement récent, les travaux que certaines de nos équipes ont menés en Guinée, qui était l'épicentre de l'épidémie d'Ebola, ont conduit à un papier qui vient de sortir dans l'Lancet Infectious Disease, une des plus grandes revues scientifiques biomédicales du monde, sur la situation des survivants au virus et des risques persistants de contamination. Ou bien, encore une fois, c'est en partenariat avec l'IRD que le virus Ebola a été identifié lors de la dernière éruption toute récente en République démocratique du Congo, en dépit des conditions, comme vous le savez, très difficiles dans ce pays. Mais nous avons aussi des activités dans le domaine de la nutrition et nous accompagnons au-delà des maladies infectieuses, la transition épidémiologique avec malheureusement l'apparition de plus en plus importante dans les pays du Sud, des maladies chroniques non infectieuses qui nous affectent aussi, notamment en lien avec l'épidémie mondiale d'obésité et cette espèce de double peine des populations du Sud qui combine souvent à la fois la sous-nutrition, la malnutrition et la surnutrition d'obésité.
Jean-Paul Moati, alors vendredi 22 février, occasion de cet anniversaire, un symposium international avec comme cadre le musée du Quai Branly. Qu'est-ce qui se passe sur place ?
Ben, ce qui se passe, d'abord, c'est l'occasion pour beaucoup de nos partenaires de l'enseignement supérieur et de la recherche français, hein, des universités, du CNRS, des autres établissements de recherche, mais surtout nos partenaires du Sud, plusieurs ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche de pays africains ou de pays d'Amérique latine seront présents. C'est l'occasion avec ces partenaires d'échanger, d'assumer ensemble notre histoire commune, parce que effectivement, l'ancêtre de l'IRD est né en 1944, créé par le gouvernement provisoire de la République du général de Gaulle, issu de la résistance, et au départ, c'est une institution sans complexe, se veut une institution coloniale.
Et qui s'appelait d'ailleurs l'Office colonial, carrément.
Absolument, l'Office de recherche de la science coloniale. Cette science coloniale, petit à petit, elle va évoluer et aboutir à ce qui nous semble être exactement son contraire, c'est-à-dire un outil de partenariat scientifique équitable avec nos collègues des Sud.
Et de, et de coopération avec justement une évolution historique, vous l'avez dit, coloniale, on est passé à l'outre-mer, aujourd'hui le développement avec justement des projets de financement pour appuyer la recherche nationale menée par les pouvoirs locaux.
Absolument. Là, ce qui est un peu caractéristique du modèle IRD, que nous partageons aussi pour ce qui est de l'agronomie avec nos amis du CIRAD, c'est que nous ne nous contentons pas de projeter nos institutions au Sud, nous envoyons nos chercheurs, nos agents, travailler dans les laboratoires de nos partenaires, et tout ce que nous faisons, c'est pour renforcer les capacités d'action de nos partenaires, d'abord parce que la science mondiale en a besoin. Il faut savoir qu'il y a actuellement l'émergence d'un nouveau champ scientifique qui s'appelle en anglais la Sustainability Science, qu'on pourrait traduire par la science de la durabilité, qui est un champ interdisciplinaire qui souvent essaye de co-construire les programmes avec les populations concernées, pas simplement avec les scientifiques concernés, et qui part des problèmes que rencontre la planète, les populations, depuis le changement climatique jusqu'à la montée des inégalités, qui mobilise toutes les disciplines nécessaires, y compris les plus fondamentales, mais en partant des problèmes. Et cette Sustainability Science, elle est la priorité de l'Académie des sciences américaines depuis 2000, de l'Académie des sciences chinoises depuis 2008-2009, et nous en faisons beaucoup, nous Français, mais pas forcément en ayant une claire conscience de ce qu'est ce nouveau champ. Et parce que nous travaillons au Sud, à l'IRD, nous sommes bien placés pour entraîner l'ensemble de la recherche française et francophone pour occuper la place qui lui revient dans ce champ scientifique.
Jean-Paul Moati, merci beaucoup. Un rendez-vous du Quai Branly ce vendredi. Il y aura d'autres temps forts prévus dans le cadre de cette programmation anniversaire. On aura forcément l'occasion d'en reparler sur RFI. Merci Jean-Paul Moati, président, directeur général de l'IRD, Institut de recherche pour le développement, qui célèbre donc ses 75 ans. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Lundi dans Priorité Santé, coup de projecteur sur la grippe. L'épidémie a atteint son pic dans toutes les régions de France avec encore de très nombreuses hospitalisations. On se retrouve donc lundi pour en parler. Si vous voulez poser vos questions, 33 1 84 22 75 75. À lundi.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les heureux retraités, assurez dès maintenant vos vieux jours avec l'assurance retraite. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.